Bonjour. De nouveau. Oui, ce qui est très présent, parce que ça suit toute cette ouverture de discours sur le Dharma. D'une façon traditionnelle, ce qu'on fait là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que on est censé attendre que le maître a mis les mains, personne d'autre lève les mains, sauf le Hino. À ce moment-là, le Jikidu sonne trois fois. Le Hino dit Gata sur l'ouverture du sutra. Le Jikido sonne, tout le monde se met au gâcho et tout le monde chante. On ne fait pas ça. Mais ce n'est pas. C'est juste intéressant hein, d'observer quand on. J'ai tellement intégré ça dans des années de pratique que quand ce n'est pas fait comme ça, je dis. Qu'est-ce qui se passe? Et le fait est que on a intégré cette chant juste récemment. Et donc, c'est pour ça que personne n'a l'habitude dans notre sangha de le faire. Si vous allez dans la sangha de mon maître, Dana, ou probablement la sangha de Soshin, probablement la sangha de Soshin, c'est complètement différent. C'est fait autrement, je ne sais pas. Vous allez voir, oula, oui, c'est différent. Claudia, c'est parce qu'elle a fait. Elle en a beaucoup. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe. Et c'est très bien ce qu'on fait. Je veux dire, l'esprit est là. Et donc, si on ne prosterne pas exactement à ce moment, là, l'esprit est là. Et ce chant dit tout, d'une certaine façon. Et donc, ce que je dis là, ce n'est pas du tout une reproche. Non, on devrait faire autrement. Pas du tout. C'est juste, j'observe ce qui se passe pour moi et j'observe ce que ça veut dire. Et le fait qu'on ne le fait pas exactement comme mon teacher le fait, etc., reflète aussi moi, ma façon de pratiquer, ma façon de transmettre. Et ce qui est ce qui se révèle dans la façon qu'on pratique ensemble et c'est juste fascinant d'observer tout ça et de regarder ça. Alors ça vient avec les questions qui étaient posées ce matin pendant la réunion. Je vais revenir là-dessus, surtout pour ceux qui n'étaient pas là. On va aborder ces questions, mais d'une autre façon. Et j'ai reçu, quelqu'un m'avait fait suivre un article de presse ce matin qui vient du vénérable CNN, la chaîne des informations continues américaines. Je dis « vénérable » entre guillemets, mais qui est... La raison pour laquelle on m'a envoyé ça, c'est parce que le titre, c'est, en anglais, c'est un article au sujet du ski alpin aux Jeux Olympiques. Okay? Mais le titre, c'est « The power of non-thinking ». Le pouvoir de ne pas penser. Et ça joigne ce dont on a parlé hier. Et ça joigne aussi une autre pratique. Et la personne qui m'a envoyé, c'est Michel Dubois qui m'a envoyé. Qui est un maître zen aussi. Donc. Ça touche le cœur de notre pratique, le cœur de ce que c'est être pleinement soi-même et rien du tout, et de se mouver librement dans cet univers. Donc. Alors juste le prétexte de l'article, c'est que pour ceux qui suivent les Jeux Olympiques, vous êtes au courant, mais peut-être personne ici suit les Jeux Olympiques. il y a une skieuse, les Jeux Olympiques se déroulent en Italie. Donc, et il y a une skieuse italienne qui ne gagne pas grand-chose d'habitude en dehors des Jeux Olympiques et qui a été gravement blessée il y a 2 ans et qui a eu un long chemin de 18 mois pour revenir et n'était pas du tout comptée parmi les favoris. Ça se fait qu'elle a gagné 2 médailles d'or, cette skieuse. Et donc, dans l'article, et en même temps, une skieuse américaine, pas celle qui s'est blessée grièvement la semaine dernière, si vous êtes au courant, mais une autre, qui gagnait tout, tout le temps. Sur le circuit, les championnats du monde, sur les concours, elle gagnait toujours. Mais en 8 courses olympiques de sa vie, je crois qu'elle a dû faire 2 Jeux olympiques, elle n'a jamais rien gagné. Et donc cet article traite ça. Cette Italienne, qui est chez elle donc, et qui n'était pas censée gagner quoi que ce soit, avait aucune attente. Elle était juste tellement heureuse de pouvoir skier de nouveau, de rentrer en lice dans une course, d'être chez elle, devant ses camarades, ses compatriotes, dans ses montagnes, elle, etc., qu'elle était complètement libre. Elle n'attendait rien du tout et elle gagnait les 2 courses qu'elle fait. Les médailles d'or, complètement inattendues. L'autre, qui gagne tout, toujours, tout le temps, elle n'a jamais rien gagné dans le moment le plus vénérable pour les athlètes, les Jeux Olympiques, jamais rien gagné. Et
Pardon, mais elle gagne tout le temps quand même.
dans les concours autres,
Ah,
en dehors, parce qu'il y a des circuits, des compétitions, des concours, des championnats du monde qui ne sont pas les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans et c'est le summum pour ces sports-là. Parce que les gens lambda ne sont absolument pas au courant qu'il y a des concours de ski en dehors de ça. Donc, et elle, donc le journaliste avait parlé d'elle, qui disait que c'est quelqu'un qui est super cérébral, super technique, qui analyse les terrains, les courses, le trajet, qui connaît tout, etc., qui aussi a été blessée il n'y a pas longtemps. On apprend que ces grands skieurs sont souvent blessés, qui a été blessée gravement aussi, il y a, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Donc elle revient, mais jusque-là, des courses amenant jusqu'aux Jeux Olympiques, ces derniers mois, elle gagnait toujours. Rien. Et donc le journaliste fait une analyse que c'est le pouvoir de ne pas penser. The power of non-thinking. Ce n'est pas du tout un article zen. Par contre, ça rejoigne ce que nous, on sait, ce qui est notre expérience. Et on voit souvent cette démonstration, entre guillemets, dans d'autres moments de la vie. Souvent dans le sport, et moi j'en parle régulièrement. Vous savez que je parle toujours de ce fameux but de Zidane dans la Ligue des Champions, en je ne sais pas quelle année c'était, 2003, ou je ne sais pas. Où complètement non pensé. La balle arrive, boum, il marque, tout le monde gagne. Zidane, c'est un exemple de ça dans toute sa carrière. Sauf quand il donne un coup de boule. Mais ça aussi, c'était un acte de non-pensée. Absolument. S'il réfléchissait, il n'aurait jamais fait ça. C'est sûr. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est pas grave. Il a donné un coup de boule à un joueur dans un match très important, finale de Coupe du Monde, expulsé, la France a perdu le final. Donc, ces choses de non-pensée, et souvent les activités physiques peuvent être propices à ça, à cette non-pensée. Mais toute activité est propice pour ça. Hein. Mais les activités plus intellectuelles, on a plus de mal à lâcher ça. Donc, ça rejoigne un peu ce que des questions ce matin qui étaient pourquoi on doit avoir notre place dans les Indos et pourquoi on mange si vite en Orioki. On a donné des explications, on a parlé un peu de ça ce matin. Alors, ça nous amène à. Donc, je vais y venir, hein, n'inquiétez pas. Je vais prendre toutes les fils que j'ai explorées moi-même seulement pendant la pause et pendant les zazen là. Donc, on va voir où ça nous amène. Nous avons ce maître Dogen qui était un de nos ancêtres qui a amené la pratique zen du Chine au Japon au XIIIe siècle, donc c'est très loin, et qui était complètement oublié pendant des siècles et des siècles, et c'est seulement, je crois, au XIXe siècle où ce grand maître a été ramené et tous ses écrits et tout ce qu'il a fait et dit, surtout ce qu'il a écrit, et il est considéré dans le monde, pas zen, mais dans le monde de philosophie, comme un grand philosophe. Dans le monde des zen, c'est considéré comme un grand pratiquant et un grand enseignant zen. Donc lui, il est ce qu'on peut appeler un mystique réaliste, qui était nouveau à son époque. Parce que souvent, la pratique zen était très mystique, dans le sens de l'absolu, l'unité, on ne s'occupait pas tellement de la vie de tous les jours. Et donc Dogen était révolutionnaire pour ça, pour amener ça. Et il parlait aux gens monastiques, la vie de tous les jours. Il a fait un célèbre livre sur la cuisine et les instructions au tenzo, au cuisinier, qui n'est pas c'est pas les recettes de cuisine. Son histoire, c'était, et c'est très, très simple, c'est. Je ne sais pas, ah non, j'ai pas une traduction en français, mais je vais dire en anglais. Enfin, je vais lire, je vais traduire. Il dit dans la cuisine, le conseil qu'il donne aux cuisiniers, c'est les choses qui sont. Qui devraient être dans un endroit haut, on les met dans un endroit haut. Ceux qui sont mis bien dans un endroit bas, on les range dans un endroit bas. Ça paraît très. Bah oui, bien sûr. OK. Mais c'est très profond. Parce qu'il dit les choses qui sont en haut, donc, ils vont être bien, ils vont probablement settled. Ils vont bien en place, là, dans leur place là-haut. Et ceux qui sont faits pour être en bas vont être bien dans leur place en bas. Et on sait très bien, là, il y a un endroit où on range les verres, il y a un endroit où on range les cuillères, il y a un endroit où on range les casseroles, il y a un endroit où on range les couvercles de casseroles. Il y a un endroit où on range les choses qui ont besoin d'être au frigo, il y a un endroit où on range les choses qui n'ont pas besoin d'être au frigo. C'est très, très clair, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec pourquoi on a notre place dans le Zendo? Dogen, ce qu'il veut pointer, c'est-à-dire que tout est égal, les choses hauts et les choses bas ne sont pas. Le haut n'est pas meilleur que le bas. Et le bas n'est pas meilleur que le haut. Les choses grandes ne sont pas mieux que le petit, mais ils sont différents. Et c'est très important de respecter ces différences et de les traiter avec équanimité, donc, disons, de la même façon. Et quand on range la cuisine comme ça, c'est beaucoup plus facile donc de préparer un repas. Tout est clair. On sait où c'est les choses, on les lave avant de les ranger. Tout est clair et c'est facile. Enfin, c'est plus facile. C'est pareil dans notre zendo. Il y a des différentes places, il y a des différentes personnes qui sont assises sur ces places. Si on était dans un zendo traditionnel, plus traditionnel, il n'y aura pas tous ces différents coussins, chaises, couleurs et tout ça. Parce qu'on estime que c'est plus facile de voir les choses s'ils sont tous pareils. Toutes les places sont pareilles. On peut être moins distrait par toutes les différences. On estime que c'est plus facile d'accéder à cette vue non-duelle si déjà dans les objets autour de nous, c'est plus non-duel. La dualité n'est pas mise en avant. Okay? Mais il y aura toujours les différences. Même si tout est de la même couleur, tout est rangé de la même façon, chaque coussin n'est pas pareil. Chaque tapis n'est pas pareil, bien que ça a l'air pareil, mais c'est différent. Et donc, on peut avoir les difficultés donc, de voir les différences si tout a l'apparence pareille. Sauf si on a déjà accédé, si on a eu cet aperçu de la non-dualité. Et donc, on sait que peut-être ils ont l'air pareil, mais ils sont aussi différents. Comme on peut dire, ils ont l'air différents, mais ils sont aussi pareils. Vous suivez ce que je veux dire? C'est un peu jargon peut-être, mais... Donc, puisque on a tout un tas de différentes couleurs, des affous, des aboutons, et chaises, et tout ça, différentes formes, ça ne nous empêche pas de garder cet esprit de chaque chose à sa place. Chaque chose étant chacun de nous. On a sa place. Et ça nous aide donc de ne pas dire « Ah ben, je préfère m'asseoir là-bas face aux fenêtres, en fait. J'aimerais bien regarder dehors. » Ou « Je ne veux pas regarder dehors. Je vais me mettre dans ce coin où il y a le soleil. » Si on peut choisir chacun où il veut s'asseoir, c'est une autre façon de faire. Au début de ma pratique, après que j'avais fait une ou deux retraites zen, j'allais justement avec Alain dans une pratique qui était ce qui est aujourd'hui le Zendo Adana. Mais à cette époque, c'était une maison, il y avait des gens qui vivaient dans cet endroit. Mais il y avait des maîtres qui venaient. Il y avait un maître tibétain qui faisait un enseignement pendant 2 jours. On est venu pour un après-midi. Et il y avait un tapis, un énorme tapis vert avec tout de motifs. Et tout le monde était assis un peu n'importe comment dans un zendo. Parce que ce n'était pas un zendo, c'était une pratique tibétaine et c'est comme ça qu'ils faisaient. Et il y avait même des gens qui étaient un peu allongés, contre le mur, tout ça. Et moi, j'étais très déroutée par ça. J'étais très accrochée, j'adorais la forme très... Je ne dirais pas stricte, mais très claire, les lignes claires et la possibilité de ne pas être distrait par tout ce qui était autour. Et là, ce tapis est très distrayant. Les gens qui étaient un peu n'importe comment, il y avait une pause de thé, on est revenu et des gens étaient dans différents emplacements et donc il a fallu trouver un autre endroit pour s'asseoir. C'est une autre façon de faire, n'est-ce pas? Ils ont la même intention avec leur pratique, avec les enseignements. C'est la même intention. C'est comme Alain m'a rappelé hier, c'est un truc que Genpo Roshi, donc le maître de mon maître, disait, c'est que la différence entre le bouddhisme tibétain et le bouddhisme zen, c'est que les Tibétains savent tout et les zen savent rien. Et donc... Parce qu'on a cette impression que dans le bouddhisme tibétain, ils vont décortiquer, ils vont te décrire tout un truc et c'est tout. Il y a des dharma combats où on va disputer tel ou tel point. Ils vont parler pendant des heures d'un enchaînement de cause et effet et tout un tas de trucs, machin. Tandis que les zen, c'est cela. Le pouvoir de ne pas penser. Mais ça revient, ça rejoigne. C'est juste une autre façon de faire. Alors, donc, cette histoire de Dogen étant une réaliste mystique, c'est que cette notion ramène le mystique, ce qui est non-duel, par définition, c'est non-dualité. Et ça ne peut être vu que par une vue non-duelle. Si on voit le mysticisme ou le mystique par une vue duelle, ce n'est plus ça. C'est que l'absolu, c'est que l'unité, c'est que le mystique. Donc, Dogen, ce qu'il a fait, c'est qu'il rejoint cette mystique, le non-duel, et l'ordinaire, tous les jours, le conceptuel, le duel, dans une sorte de vivre dedans. Donc, c'est-à-dire que cette vue non-duelle, l'éveil, comme on dit, à la non-dualité, est vécue dans la dualité. On voit la dualité d'une façon non-duelle. Vous me suivez ou non? Non? C'est comme j'ai dit qu'on voit les différences, mais ils sont un. Donc, le haut et le bas, on voit que c'est différent, mais il n'y a pas un jugement, c'est meilleur ou pire, je préfère ceci ou cela. C'est ça, expérimenter la non-dualité dans la dualité. C'est différent que d'expérimenter la dualité dans la dualité. Ça, c'est les jugements, les positions, les idées, je ne veux pas cette place-là, je veux cette place-là, c'est manger vite, manger pas vite, manger ceci, manger pas cela, les préférences, on veut pas, j'aime pas ça, je ne vais pas le manger. Et justement, cette pratique de Ryoki, c'est fait, toutes les pratiques zen en fait, c'est fait pour qu'on puisse expérimenter la non-dualité dans la dualité. En fait, on ne peut pas l'expérimenter ailleurs. On est le monde duel, donc on peut expérimenter la non-dualité uniquement ici, maintenant. C'est la seule possibilité avec ce qui est, ici, maintenant. Et Dogen, c'est là son don, c'était de nous inviter à ça. Et c'était un changement radical dans le zen, parce que jusque-là, on parlait que de non-dualité. Mais Dogen a introduit toute cette histoire de comment ranger les choses, comment faire la cuisine, comment, même au truc de, il y a un célèbre passage où il s'agit de trier le riz et de ne pas, tu le connais, oui, avec le sable, le riz et le sable.
Ah, alors attends, ça, vas-y, bon, moi, du coup, maintenant, ça ouais. C'est dans ma vie, mais le riz, mais...
Bah, c'est, oui. D'abord, il ne faut rien gaspiller une grain de riz quand on lave le riz. Souvent, on lave le riz, et bon, il y a un peu dans l'évier, bah, tant pis. Hein. Mais là, non, rien. Il faut vraiment récupérer chacun. Et quand on lave, je ne sais pas pourquoi, c'était... Il y avait du sable dans le riz à son époque. Pardon. Et donc... quand on lave le riz, on lave aussi le sable et on gaspille pas le sable non plus. Donc, on lave entièrement le riz, on fait le tri, mais on est en train de laver le sable aussi et on sait pas que le sable est mauvais et le riz est bien. C'est juste qu'on ne veut pas manger le sable. C'est différent. On mange le riz, on ne mange pas le sable. Les choses très, très concrètes pour amener justement cette non-dualité dans la dualité. C'est quoi que dont tu pensais, toi?
Non, moi, dans la cuisine, maintenant, quand je lave le riz, et des fois, la passoire, il y a du riz qui s'échappe, ben, je récupère chaque grain de riz, parce qu'il y a Dogen dans mon oreille qui dit « Non, c'est pas possible. » Donc, je récupère tous les grains de riz.
Oui, ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que si on va jeter ces grains de riz qui sont dans l'évier, bah, y a d'autres choses qu'on va jeter aussi. Il y a d'autres choses auxquelles on ne va pas penser non plus, y compris les gens qui vivent dans la rue, y compris les gens qui ne parlent pas comme nous, y compris on va maltraiter les enfants ou les vieux, ou je ne sais pas. Ça amène très loin. si on commence à faire ces différences. Et en nous-mêmes aussi, on va dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien en moi, donc je vais le laisser dans l'évier. Mais non, tout est valable chez nous et on peut le nettoyer. Comme... Il ne s'agit pas qu'on est impur, mais je garde la métaphore du riz. On peut s'occuper de tout ce qui est en nous. Et donc, ça, évidemment, il y a toujours un courant qui a à voir avec ça, évidemment. Donc, il y a ce courant de un maître qui, un jour, encore une fois, c'est un moine qui demande à un maître, demande à un maître, le maître étant Tozan Ryokai, qui est, c'est un peu spécialiste zen, mais il y a deux écoles zen, il y a le Rinzai, il y a le Soto. Et Tozan, c'est le To dans Soto, peu importe. Donc un jour, un moine lui demande, quand viennent la chaleur ou le froid, comment puis-je les éviter? Et on connaît bien ça aussi. On a parlé juste au dîner l'autre jour, où je ne sais pas, oui, c'était au dîner, quand il fait très très chaud à Paris, ou quand il fait chaud dans le sud, quand vous avez des tempêtes et pas d'électricité et d'inondations, etc. Donc, quand viennent la chaleur ou le froid, comment puis-je les éviter? Et Tozan lui dit, le maître lui dit, pourquoi ne vas-tu pas à un endroit où il ne fait ni chaud ni froid? Ah, ce sera super, non? Oui. Et donc le moine, ah ok. Où est donc cet endroit qui ne connaît ni froid ni chaleur? Et Tozan, évidemment, c'est pas si simple. Enfin, c'est super simple, mais quand il fait chaud, non, qu'est-ce que c'est que quand il fait froid, laisse le froid te tuer. Quand il fait chaud, laisse la chaleur te tuer. Et c'est, qu'est-ce que c'était le truc, cet endroit qui ne connaît ni le froid ni la chaleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand il fait froid, laisse le froid te tuer. Quand il fait chaud, laisse la chaleur te tuer. Ce n'est pas différent de tout ce qu'on a dit jusque-là, mais je vais peut-être on va explorer ça un peu. Te tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on parle de tuer, bien qu'on a cette précepte qu'il s'agit de ne pas tuer? Et on a des grandes discussions dans la sangha de est-ce qu'il faut tuer les moustiques ou non? Est-ce qu'il faut tuer les petites abeilles dans les Seychelles au Portugal? Est-ce que... Donc, il y avait deux camps. Non, il ne faut pas tuer les moustiques. Non, il ne faut pas tuer les petites abeilles. Bien que c'était les abeilles spéciales. Oui, mais il y avait des bébés dans la piscine. Et donc, la question était, est-ce que je vais tuer les bébés? Oui. Mais c'était en plus
des... Non, ce n'était pas les abeilles.
C'était pas les abeilles.
Non,
les trucs asiatiques.
Les trucs asiatiques, c'était les bébés.
Qui sont bêtes, qui ne sont pas terribles. Et donc, c'était les grandes questions. Et là, on parle de se tuer avec le foie, ou laisse le foie te tuer. Un autre courant, quelqu'un travaillait sur ça l'autre jour, qui était, il y a un moine qui regarde un champ, il y a un champ de cerf, king deer, donc cerf roi. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est des grandes cerfs magnifiques. Les cerfs, les boss, quoi. Et il dit au maître, le moine, comment on peut tuer le roi des rois cerfs. Et le maître prend un... Il tire un air. Il fait comme si tirait une flèche sur le moine. Et le moine tombe. Et le Le maître dit, appelle son assistant et dit, « Ah, viens, dégage-moi de ce type-là. » Et bon, ça continue, mais c'est ça le cœur des choses. Et donc, les questions, c'est, qu'est-ce que c'est le roi des rois serfs et pourquoi le moine veut le tuer? Et qu'est-ce que ça veut dire, le tuer? Donc, c'est tout un cheminement qu'il faut faire avec ce courant, mais ça revient, ça rejoigne cette histoire de laisse le foie te tuer. Dans le truc de foie ou chaud, il y a quelqu'un qui ne veut pas le foie, quelqu'un qui ne veut pas le chaud. Très attaché à ne pas avoir foie ou chaud. C'est moi, n'est-ce pas? Moi-même, c'était pas tellement le chaud et le foie, mais c'était la pluie. Donc, j'ai dû faire tout un trajet avec ça. Principalement parce que la pluie me faisait friser les cheveux. Et je ne voulais pas des cheveux frisés. Donc, c'est évident, non? Et donc, il a fallu faire tout un chemin avec ça. Donc, j'étais très attachée à les cheveux d'une certaine façon parce que mon copain à l'époque aimait bien les cheveux lisses, etc. Ou probable, je ne sais pas exactement, mais c'était lié à ça. Une image de moi, donc. Et donc, ça pourrissait la vie. J'étais mécontente et je pourrissais la vie de tous les gens autour de moi parce que j'étais mauvaise humeur. Et j'étais furieuse parce que mes chaussures allaient être mouillées, mon manteau allait être mouillé, tout ça. Ça, c'est juste un petit exemple des attachements qu'on a à les éléments. Et on a beaucoup d'autres attachements aussi, mais là, parce qu'on parle de chaud et froid, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce que c'est « laisse le foie te tuer » ben, qu'est-ce qui doit être tué? C'est celui qui est attaché à ne pas avoir froid. Celui qui est attaché à ne pas avoir chaud. Tuer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, comment tu tues ça? C'est un peu extrême, mais on sait que cette histoire zen, c'est toujours extrême. Il coupe les doigts, tue les chats, il se bat, il donne 30 coups, c'est toujours... Mais c'était une culture, c'était une circonstance qu'aujourd'hui, on ne formule pas de la même façon. Mais l'intention est la même, c'est comme les Tibétains qui vont parler de tout un tas de royaumes et des mantras, etc. Et Zen qui va juste dire, juste ceci, mettre les cuillères ici et les tasses là. C'est différentes façons de te tuer, c'est-à-dire tuer tes préférences. Donc, si on te dit mets les tasses là, bah, tu mets les tasses là. Si on te dit mets les cuillères là, bah, tu mets les cuillères là. Ce sont tes préférences. Ah non, moi je pense que les cuillères devraient être là plutôt que là. Ou que les verres doivent être ailleurs. Ou il y a une autre discussion qu'on avait autrefois dans la sangha de Dana, et ce qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est quand on fait les vaisselles. Peut-être Marjolaine est au courant de ça. Les gens du Pays-Bas ne rincent pas les vaisselles. Tu es au courant?
Oui, mais je rince.
Quoi?
Je préfère.
Donc, tu laves les vaisselles avec du savon et il les essuie. Il ne les rince pas. Ah bon? Ah d'accord, ok. En Portugal, on fait la même chose. Ah, the British. Ah, les Anglais. Je crois que c'est pas juste. Ah oui, j'étais étonnée au Portugal, j'ai jamais vu ça. Donc, ok. Et donc, on a eu cette discussion toujours dans les cuisines quand on lavait les vaisselles et certaines Hollandais fermaient et ils le faisaient. D'autres contestaient et insistaient pour qu'on fasse comme ça.
C'est pour économiser l'eau?
Je ne sais pas.
Il y en a aussi là-bas.
Je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin. Donc, bref. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un workshop chez Michel Oldtaten, qui est un de mes camarades, Roshi, non, il n'est pas Roshi encore, Sensei. Et on était chez lui, donc, et donc on faisait les vaisselles. Et lui et sa femme, en rigolant, me dit, on est chez nous, donc on va faire comme chez nous. Et donc, ok, je faisais. C'est moi qui l'avais. Je l'ai passé les vaisselles, je ne regardais pas ce qu'il faisait ensuite. Mais chaque fois que je prenais un verre, je me demandais, oula, il y a toujours des liquides vaisselle dedans. Je sais pas. Donc, c'est des préférences, c'est des idées, c'est des opinions qui vont perdurer, qui nous suivent dans, même dans les Seishin-zen, où on est censé être, oui, très clair, on va se tuer avec la foi, hein. Mais pas avec les liquides vaisselle. Hein, donc. Et donc, c'est sidérant, non ? Ce qu'on fait. Et on peut avoir nos préférences. Moi, je peux avoir des préférences sur mes rakusu. Donc, il a fallu choisir quel rakusu j'amenais. Et donc, j'ai amené deux, parce que j'aime bien changer, mais ça n'a aucune importance. Alors, est-ce qu'on peut lâcher ? Et on va, c'est là où on va, dans cet endroit où il n'y a ni chaud ni froid, où il n'y a ni haut ni bas, où il n'y a pas rincé. Ici, il y a rincé et pas rincé, mais il n'y a pas cette, on ne va pas s'accrocher à cette idée qu'il faut faire comme ceci ou là. Falloir, c'est toujours un mot, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire souvent, c'est il ne faut pas que je traverse ici. Il ne faut pas que je mette ce manteau là. Qui a donné ce dicton qu'on ne peut pas mettre ce manteau là? Qui a donné ce dicton qu'il ne faut pas avoir les cheveux frisés quand il pleut? Et ça nous en rejoigne, ce pouvoir de ne pas penser. Cette skieuse italienne, qui n'est probablement pas une pratiquante zen, hein, mais qui était tellement libre parce qu'elle n'avait plus d'attente. Elle n'attendait rien. Mais, elle n'était pas simplement dans une espèce de béatitude non-duelle. Parce que c'est très précis le ski. L'autre là qui s'est blessé la semaine dernière, c'était à quelques centimètres, elle a pris une porte et elle s'est blessée gravement. Hein, parce qu'elle était à quelques centimètres de la trace qu'il fallait suivre. Donc, elles vont à une vitesse, mais 100 km l'heure sur les skis, en une descente comme ça. Et donc, elle était absolument attentif à toutes les différences, à la dualité des choses, mais sans aucune, mais dans un esprit de non-dualité. Pas d'idée, pas de pression, pas d'attente. Ça a glissé à merveille. Je dis ça parce que c'est le ski, mais la vie peut se glisser à merveille même quand il y a des bosses, même quand on trébuche. Si on n'est pas accaparé par je veux qu'il fait froid, ou je veux qu'il fait chaud, ou je veux qu'il ne fasse pas froid, ou il ne fait pas chaud. Ah, mais non, on ne voulait pas de pâtes. Hein. Alors, qu'est-ce que ça. Donc, dans cette notion de manger vite, lente, beaucoup, pas beaucoup, etc., et cette pratique qu'on a de Oryoki, qui est un mot, c'est un mot japonais qui veut dire right amount, la bonne quantité, la juste quantité, disons. Et ce n'est pas seulement la bonne quantité de nourriture, ce qu'il y a dans mon bol. Mais Il y a ça, évidemment. Mais c'est la juste quantité de tout. Attention, chanter, pas chanter, posturer, pas posturer, effort pour mettre les baguettes comme ça et la cuillère là, quand le faire, quand le faire pas, etc. C'est une pratique de dingue, de attention et de ne pas s'accrocher à froid ou chaud, ne pas s'accrocher à vite ou lente, ne pas s'accrocher à comment il faut faire ou pas faire. On se laisse tuer par ça. L'autre histoire que je raconte régulièrement, je suis désolée pour rappeler, mais savoir avec l'Orioki, c'est que quand des années, mon teacher, Genaroshi, donc, elle nous réunit les gens qui avaient un certain niveau de pratique pour regarder toutes les formes, parce qu'elle était plus dans les formes que moi. Donc tout le monde s'est réuni, on a regardé toutes les cérémonies, toutes les. Comment le zendo doit être organisé, comment, etc. Comment il faut sonner les cloches, tout ça. On arrive à l'Orioki. Et j'étais très contente. On faisait, on discutait de ce qu'on fait, à quel moment, le chant, etc. Et moi, j'étais très contente parce que, moi, dans l'Orioki, je trouvais que c'était stupide de, après qu'on a nettoyé nos bols, on les déplace à. Non, ils sont à gauche et on nettoie tout le reste comme ça. Et puis on les déplace à droite et on nettoie de nouveau de l'autre côté, mais aussi au milieu. Et moi, je trouvais que c'était stupide de nettoyer deux fois le milieu. Et qu'il y avait certainement une erreur quelque part qu'on nettoyait au milieu. Et donc, je ne le faisais pas. Et donc, quand on arrive à expliquer tout ça, j'attendais mon moment, parce que tout le monde donnait des commentaires, posait des questions, etc. Et donc, moi, quand c'était là, j'ai levé la main et j'ai dit, moi, et j'ai expliqué la situation. On était dans un grand cercle et tous mes camarades me regardent. Et Geno Roshi dit, just do it, Amy. Fais-le, Amy. Fais-le. Quelle libération. J'étais, mais tout s'est effondré. Je me dis, mais waouh, je n'étais plus obligée de m'accrocher à cette idée. Je n'étais plus obligée d'avoir cette opinion. Je n'étais plus obligée de me faire différent que les autres. Je n'étais plus obligée de penser, il ne faut pas nettoyer le milieu. C'était vraiment juste, ok. On met ça là, on met là, on me fait là. Quelle libération! Mais c'est. Waouh! J'ai une gratitude éternelle pour mon teacher de m'avoir dit just do it, Amy. Et donc, c'est aussi une leçon de quelle merveilleuse pratique c'est, cet Orioki. Ça nous amène à chaque instant just do it. Et si vous regardez autour, tout le monde fait plus ou moins la même chose. Tout le monde a reçu a priori la même instruction. Sauf que je ne suis pas sûre que Soshin et moi, I think maybe in her sangha they have different instructions for some things. Non, in Orioki. Have you noticed we do a couple of things differently? Yeah. Donc, ça dépend, ok? Ça dépend des instructions qu'on a reçues. Mais plus ou moins tout le monde fait et c'est à perfectionner à l'infini. Et ce qui peut se passer, c'est que les gens qui ne savent pas très bien faire, ils regardent quelqu'un d'autre et la personne qui regarde ne sait pas très bien non plus et donc tout le monde fait un peu approximatif. Mais c'est une pratique d'attention sans cesse. Même la façon de manger. Et donc, oui, j'ai plein de compassion pour manger lente ou vite. Ça, je sais, très bien. et mâcher bien ou pas mâcher bien et tout ça. C'est une pratique. C'est une pratique. C'est regarder ce qui se passe pour soi pendant ce moment-là. Poser les questions, pourquoi on le fait, pourquoi on ne le fait pas. C'est très bien, c'est fait pour ça. C'est fait pour te tuer avec le yoga. Et pour certaines personnes, ça me tue, il le tue. Il y a des gens qui détestent le yoga et qui veulent toujours être serveur. Là, on ne fait pas la version avec serveur. Il y a des gens qui toujours ils se présentent pour être serveur. Je suis toujours un peu soupçonneuse. Pourquoi ils se proposent toujours d'être serveur? Parce que c'est pas facile, serveur. C'est, ça tue les genoux, justement. Et les quads. C'est vraiment... donc, je suis toujours un peu soupçonneuse pourquoi ils veulent faire. Je ne regarde pas. Je ne savais pas. I didn't realize until you told me that you were off the server. So, I didn't know that. So, I wasn't looking at you saying, why are you always server?
I fit the description.
Donc, c'est intéressant, hein? Ou les gens qui ne veulent jamais être serveur. Jamais. Ils ne se présentent jamais pour être serveur. C'est intéressant, tout ça. Tout ça, c'est fait pour toutes ces formes, ces rituels et tout. C'est fait pour qu'on puisse se tuer avec le froid et se tuer avec le chaud. gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Peut-être pas. Ok, bah peut-être j'arrête là et on ouvre aux questions.
Moi, je veux bien partager quelque chose parce que hier, quand je faisais des claps, j'ai commencé à me dire que vraiment, c'était super stupide de faire des claps alors que les gens, ils étaient dans les autres bâtiments. Donc, j'avais l'air un peu con avec mes claps toute seule ici parce qu'il y avait deux personnes et que tout le monde était loin. Et j'ai même pas pensé à sortir dans le jardin, en fait. Maintenant, je me dis... Mais c'était très intéressant parce que j'étais en train de refaire les claps, en fait. Et jusqu'à ce que je me rappelle de cette histoire avec... Et je me suis dit, Claudia, shut up and just do it. Mais je me suis rappelée de cette histoire avec Roshi, j'ai pensé à ça. Et aussi, je voulais te dire que ce matin, c'était intéressant parce que quand je suis rentrée dans le Zendo, comme je suis Jikido, normalement, et ben, j'ai regardé le Jikido et je me suis dit, ah, mais c'était génial parce que je me voyais moi, mais c'était pas moi, c'était super. J'ai vraiment eu une expérience très forte. Et je regardais le Jikido et je me disais, ah, mais il est trop... Ah, c'est bien. Enfin, c'était très beau, cette... parce que je savais que c'était moi, mais c'était pas moi. Enfin, c'est très intéressant de changer de place dans le Zendo alors que je suis censée être à ma place. Enfin, il y avait quelque chose de très fort ce matin dans ce déplacement imprévu. Et aussi regarder les gestes à distance, parce que j'étais censée faire ces gestes-là, mais j'étais à distance. Donc c'est moi qui les faisais, mais c'était pas moi. Du coup, je pouvais les regarder de loin. Ouais, c'était le... expérience de ce matin.
Ah oui.
Non. Il y a quelque chose de l'ordre de la... comme si la soumission délibérait.
Oui.
Ben, y a l'acte de liberté totale, est-ce qu'elle est empreinte d'une soumission totale? Et moi, il y a un truc qui me semble paradoxal, je ne sais pas à quel endroit.
Oui, 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 je comprends.
Oui.
Et donc, il y a des maîtres zen qui vont parler de soumission. Submission, dévotion. C'est vrai. Quoi?
Dévotion aussi.
Il y a aussi cette chemin de dévotion aussi, c'est vrai. Et c'est... La chose, c'est que... On le fait parce qu'on veut le faire. Ce qui est différent d'être obligé, soumis à moi, à moi qui oblige ça. C'est plutôt une volonté de savoir que c'est moi qui m'entrave, en fait. Et tout ce qui est fait ici, c'est pour nous aider à se désentraver? Non. Mm-hmm.
Oui, c'est bien.
On dit pas ça?
Non. Ça marche.
Ouais. De se délier, peut-être. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est pas toutes ces règles ici qui va nous... On a l'impression que ça nous prive de notre liberté. C'est vrai. C'est une liberté qui est très limitée, en fait. Parce que la vraie liberté, c'est de se mouver avec liberté dans cette situation-là. Dans toute situation. Et de ne pas se fixer sur une situation ou une autre. Et donc, quand on parle de cette soumission, c'est comme si on disait que tu dois toujours manger en oryuki, même quand tu n'es pas dans cette situation-là. Tu dois toujours s'asseoir toutes ces heures, tu dois toujours dire, chanter telle ou telle chose à telle ou telle façon. Bien que en se chantant d'une telle ou telle façon, quand on chante autrement, ben, on est beaucoup plus libre à chanter autrement. Je sais que ça, c'est paradoxal, mais comme disait Alan Watts, qui est un grand pratiquant, il n'était pas vraiment pratiquant, mais dans les années 50-60, il a introduit le zen en Occident. Il avait dit un paradoxe, c'est une vérité qui se met sur la tête. C'est comment on appelle la posture en yoga quand on est sur la tête. Un paradoxe, c'est une vérité qui, pour nous attirer notre attention, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans ça, ce paradoxe, que je me prive de liberté apparemment dans cette soumission, mais en fait, c'est je me libère en me privant de cette idée que j'ai de ma liberté. C'est quelque chose comme ça. Et on ne peut savoir qu'en le faisant. Alors, c'est très important de faire attention parce que les soumissions dangereuses, c'est quand il n'y a que l'absolu. Oui, on ne prend pas en compte où il n'y a que la non-dualité. On ne prend pas en compte la dualité. C'est là où les choses deviennent totalitaires. C'est quand on ne voit pas les différences. Les situations sont différentes, les gens sont différents. Respecter les qualités, la façon de faire de chacun. Ça, c'est... Mais si, dans les régimes totalitaires, il n'y a rien de tout ça. C'est... Tout doit être pareil. Et on sait que si on n'est pas pareil, ben on finit dans les chambres à gaz. Le goulag. Ou aux États-Unis. Quoi.
Embarqué par ICE.
Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça la différence. La soumission avec compassion, c'est fait pour que chacun puisse se réaliser, disons. Peut se réaliser qui est-il véritablement. C'est peut-être la soumission avec compassion.
Mais on ne peut pas parler plutôt de mode d'emploi, parce que moi je trouve ça étrange. Je comprends.
Hein. J'ai repris le mot soumission parce que ouais, Laurent l'avait évoqué.
Oui, parce que moi, ça ne me parle pas tellement. Mais c'est plus le mode d'emploi, en fait, moi, qui me libère. C'est que du coup, j'ai plus de questions, en fait. C'est je suis le mode d'emploi, en fait.
Il y a ça.
Si je suis le mode d'emploi, alors je ne me questionne pas de comment il faut faire. Juste, je suis le mode d'emploi. Et du coup, de là, ça me donne la liberté de
pouvoir... Ou tu n'as plus le mode d'emploi. À un moment, tu n'as plus besoin de mode d'emploi.
Et à un moment donné... Puisque c'est toujours la même chose, j'ai plus besoin de mode d'emploi, c'est ça?
Enfin, je parle de la vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin de mode d'emploi dans la vie de tous les jours.
On a besoin de rester créatif.
C'est ça, exactement. C'est là où la créativité devient plus large, même, quand on n'a plus de bornes.
Pas pour moi.
C'est-à-dire?
Justement, parce que moi, je l'ai repéré il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai besoin de bornes pour être créative. Enfin, je ne sais pas si je me...
C'est ça.
Je parle de la même chose, mais...
Si, non.
Tu sais, quand on parlait de rivière, une fois, tu m'avais donné l'image de la rivière, parce que la rivière, il y a deux rives, Et, la rivière, et le l'eau, elle est toute folle dans, entre les deux rives, en fait.
Ah oui.
Moi, je sais que quand j'ai des bornes, quand j'ai des rives, alors je peux vraiment partir dans une grande créativité. Des fois, quand je perds les rives, ça part tellement dans tous les sens que du coup, il n'y a plus de...
Ben, le monde de la dualité, c'est des bornes partout. La question, c'est être libre à l'intérieur de ces bornes et se servir comme appui, etc. Moi aussi, en tant que poète, les poètes, ils se donnent des formes, ils se donnent des contraintes, ils se donnent des cadres pour écrire. Les artistes, vous vous donnez des... Enfin, vous avez votre matière, vous avez... C'est ça, déjà, c'est un énorme borne, quoi. C'est ça, exactement. Donc, oui, c'est comment... et c'est ça, vivre d'une façon... non-duel dans le monde de la dualité. Non, disons que la non-dualité, c'est la créativité à n'en pas finir. Mais ça a besoin d'être fonctionné dans le monde non-duel. Dans le monde duel, pardon. C'est ça les bornes, exactement.
C'est très marrant parce que quand Lisa nous montrait... tous les détails de son rituel d'Oyoki, c'est ça? Là, j'avais des yeux comme ça, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Toute la complexité, et il y en avait encore, et encore, et encore. Et là, je me disais, comment je vais faire pour retenir tout ça? Et alors, après, elle nous a montré deux fois, et je me suis dit, oh mon Dieu. Alors, après, on avait la pause, j'ai pris du papier toilette et je suis allée la voir pour vraiment m'entraîner. Alors, j'ai fait tout ça vraiment pour bien comprendre. Après, j'avoue, je suis allée sur YouTube et je me suis dit, ok, là, laisse tomber. Essaye de voir, parce que ça me gêne de ne pas savoir comment faire. Et je me dis que si je m'entraîne, si j'apprends à l'avance, je vais passer par cette étape où c'est désagréable, d'inconfort, de ne pas savoir. Et je me suis forcée à ne pas regarder. Et heureusement, il y a Marjolaine qui m'aide. Et ça me gêne de faire des erreurs, encore. Mais comme, c'est un peu comme ce que tu disais, c'est que c'est là pour ça. C'est j'aurais pu faire ça. J'aurais pu m'entraîner pour que ça soit correct. Et pour moi, c'était une petite montagne à surmonter de me dire, ne fais pas ça, essaye de voir ce que ça donne. Et, et c'est... Voilà.
Oui, voilà, c'est formidable. Hein. C'est une occasion de...
Lâcher.
Quoi?
Lâcher.
Oui, lâcher. Et de plonger dans... Ok. Et peut-être dans la vie de tous les jours, tu n'aurais pas fait ça. Hein. Tu aurais peut-être appris par cœur la chose, etc. Ah, oui, c'est ça. Donc, c'est une autre situation, c'est un autre moment. Et ça ouvre d'autres choses en soi. C'est très.
Mais... Sauf que Marjolaine a fait des erreurs, mais je regarde Amy.
Oula, alors c'est moi je
vais être sûre du bienfait.
Non, dans cette chose de manger rapidement, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fondamentalement que je ne comprends pas. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt fondamental à manger aussi vite. Il y a vraiment, pour moi, c'est la vie qui nous amène, qui fait pousser, qui... On a un temps de mastication, de célébrer les aliments. On a un rythme naturel. Et donc, du coup, manger, c'est un besoin. Il faut qu'on s'alimente. On a besoin de prendre des forces. Et donc là, moi qui manque des dents, par exemple, du coup, je vais manger moins rapidement que quelqu'un d'autre. Mais si l'autre, déjà, est à sa phase vite, il faudrait que je découpe ça, mais je ne peux pas, du moins, il n'y a rien de cohérent à l'intérieur. Alors peut-être même ça vient de la forme éducative, prends ton temps pour manger, ne te baffre pas, savoure, il y a des gens qui ont travaillé pour ta nourriture, respecte le travail, du moins. Là vraiment, pour moi, je me soumets du coup à moins manger, parce que je n'ai pas le temps, mais du coup j'essaye de manger vite, je ne me satisfais pas moi, parce que je mange à toute berzingue, je ne le respecte pas. Du moins, il n'y a pas de. J'ai pas un mot clair là-dessus qui vient me toucher et que je peux accepter. Donc, et du coup, là, pour moi, je trouve que c'est une soumission où vraiment. J'ai l'impression que là, c'est la limite de la soumission qui va apprendre à me déposer, à oublier mon moi. Pour ressentir de cela, mais attention, je suis débutant, donc je me livre à la mise en place de tout ce qui est dans le respect de l'accueil aussi qu'on m'a fait, et du coup je vais continuer à manger vite, mais là il y a un truc que je comprends pas.
Oui, oui, et j'entends. Et Il y a un aspect que tu n'as pas regardé, c'est que tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de manger en orioki.
Tu peux être serveur.
Mais tu peux manger dans la cuisine. C'est pas le problème, hein. C'est vraiment pas le problème.
Ouais.
Si tu veux, hein. Et je dis ça en toute connaissance de cause, et tout, c'est vraiment pas un problème si tu veux.
Ce qu'il y a derrière, c'est un questionnement, pourquoi tout le monde le fait? C'est ça qui me... Je regarde un groupe qui fait ça. Est-ce qu'ils sont justement soumis? Est-ce qu'ils sont... est-ce que c'est des justes? Est-ce qu'ils sont droits, eux? Moi, tu vois, c'est un truc comme ça. Quoi.
Probablement chacun a une réponse différente à ça. Hein. Je ne sais pas. Mais tous sont libres aussi de ne pas le faire. Je maintiens. Et comme j'ai dit, il y en a qui mangent, qui veulent serveur parce qu'ils ne veulent pas le faire.
Oui. Moi, je connais bien le problème parce que je mange souvent avec Amy. Évidemment.
Mais je ne mange pas vite.
Amy mange très lentement, en fait. Beaucoup plus lentement que là. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je mange vite. Et donc, j'arrive toujours à la fin du repas. Merde, j'ai fini. Allez, prends du temps, etc. Donc, c'est un problème que je connais très bien. Et donc, je te remercie parce que je vais pouvoir encore ralentir un peu.
Sauf que c'est le contraire. C'est lui, il est dans la position de moi qui...
Oui.
Qui,
oui. Ouais. Mais c'est vrai que Orochi...
beaucoup plus vite.
Moi, j'étais perdu. Hein, c'est... Ouais.
Mais vraiment, Laurent, je maintiens que tu n'es pas obligé de faire. Ou de temps en temps, si tu veux venir pour le petit déjeuner, mais pas pour le déjeuner. Ou... Vraiment. C'est...
Et en revanche, tu peux aller au village des pruniers. Parce que là, c'est une demi-heure le temps.
Oui,
au village des pruniers, c'est l'inverse.
Ah, c'est très lent. Oui, ben voilà, c'est une autre façon de faire.
Parce qu'ils mangent en pleine conscience.
Oui.
Enfin, ouais, ça ne veut pas dire que nous, on mange ça en pleine conscience. Hein, mais c'est...
Oui.
C'est leur truc à eux de vraiment.
C'est un autre rituel.
Oui. Tu manges vraiment grain de riz par grain de riz. Ça, pour l'avoir
expérimenté. Mais je trouve que tes questionnements sont très importants aussi, Laurent. Pour toi, mais aussi pour les autres.
Mm-hmm.
Et donc, il faut vraiment continuer à les questionner et à rester avec ça.
Il y a des dictats aujourd'hui qu'il faut vraiment. Faire attention parce que
tout à fait.
Autrement, mais...
C'est ça, absolument. Et c'est pour ça que je dis dans cette dicta, il y a cette partie qui est tu ne peux pas, tu peux ne pas le faire. Il y a d'autres dictats où tu dois le faire. Et tu es pénalisé si tu ne le fais pas. Et là, non, pas du tout.
Puni.
Quoi? Puni.
C'est le concept de punition.
Oui, et là, ce n'est pas ça.
Il n'y a pas fait ce que tu veux faire de là.
Ouais. De même pour chanter, posterner, non. Il y a des choses que je souhaite maintenir, c'est que tout le monde respecte quand les cloches sonnent et se lève ensemble et tout ça. Ça, je veux qu'on maintienne ça. Mais si quelqu'un ne veut pas prosterner, ils n'ont pas besoin de prosterner.
Il y a beaucoup de choses qui se justifient parce qu'il s'agit quand même d'ordonner le chaos intérieur de chacun d'entre nous. S'il n'y a pas de forme, on voit bien, c'est l'histoire de la thérapie, pourquoi le cadre en psychothérapie est-il essentiel? Parce que s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de processus possible. Donc il s'agit vraiment d'aider à organiser ce chaos intérieur qui nous habite. Il suffit de s'asseoir 30 secondes et de fermer les yeux pour se rendre compte, effectivement, mais au bout d'années de pratique, que parfois à l'intérieur, c'est un bordel total.
Oui, et le fait est qu'il y a toujours une forme, même oui. Si on dit qu'il n'y en a pas.
Oui.
Il y a toujours un rituel de manger, si on est à table avec nos fourchettes et nos couteaux et tout ça. Et selon le pays, selon la façon, ça peut être très élaboré ou non. Il y a toujours une forme, il y a toujours une façon de faire. Et c'est très important le cadre pour, comme c'est la même chose que Claudia disait, que si la rivière, il n'y a pas de banc, c'est pas une rivière, c'est un flaque. Pour ces rituels, moi, ce que j'ai, à un moment, il y avait très peu de rituels, non, parce que j'ai commencé à zéro, je n'avais rien. Et donc j'ai commencé à zéro, j'avais pas de Bouddha, j'avais pas de coussins, etc. On allait dans un endroit, on prenait des coussins, des canapés chez les gens, des choses comme ça. On n'avait pas de cloche, rien. Et au fur et à mesure, donc, on ne faisait pas Oryoki. J'avais inventé une espèce d'Oryoki à table. On ne faisait pas d'Oryoki, pas de chant, il n'y avait pas de chant. J'étais au Portugal. Ça n'avait pas de sens, etc. Au fur et à mesure, j'ai introduit les choses qui avaient un sens pour moi, pour quelle est l'intention de cette pratique. C'est un chemin de libération. Donc, qu'est-ce qui peut nous libérer, justement, de cette, je ne dirais pas chaos, mais de cette... oui, c'est chaos, mais c'est chaos ici aussi. Hein. Tout est chaos. On pense qu'il n'y en a pas de chaos, mais tout est chaos. Qu'est-ce qui peut nous libérer de nos attachements à soi, principalement. Tout ce qui favorisait cette libération, j'ai à ramener petit à petit. Au début, on n'avait pas assez livré. Personne, moi j'étais le seul qui avait ça. Et donc, au fur et à mesure, c'est introduit. Et une fois, j'ai décidé qu'au Portugal, pour l'été, j'ai décidé que j'allais introduire l'Oryoki. Donc, j'ai tout amené. Et tout le monde, plutôt que trois personnes qui sortaient pour avoir les instructions, la deuxième et troisième période. Were you there that year when we did that?
I was in the kitchen.
Oh, you were in the kitchen. Tout le monde pendant le deuxième et. Ah, that's interesting. You were in the kitchen. Okay.
You asked me to.
Okay. Donc tout le monde pendant la deuxième et troisième période, tous les Zendo en avaient instructions d'Oryoki. Et après, on a enchaîné avec le petit déjeuner. Heureusement qu'il y avait d'autres. Il y avait une personne, Sophie, qui était serveur, qui connaissait serveur, donc elle a formé les serveurs. Et puis, voilà. Donc, au fur et à mesure, j'introduisais et j'ai gardé, et toujours je garde que les formes, les rituels qui, dans mon expérience, je parle de mon expérience, je ne peux pas parler pour d'autres, hein, qui nous donne un cadre, favorise, nous permet de se libérer. Autrement, je fais ça. Aucun intérêt, moi, des fois. Aucun. Enfin, c'est rituel. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas tellement important si le coussin est jaune ou noir. ou si les gens sont habillés dans son vêtement t-shirt, tout le monde a des robes. J'avais des robes au début. Et au début, je mettais mon robe et mon rakusu, et tout le monde était comme vous. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais différent que les autres? Je suis juste comme eux, donc j'ai enlevé la robe. Les gens s'en foutent. Et tout est gardé pour... Il y a un intérêt dans ces robes. C'est qu'on n'a plus à penser à comment on s'habille. Tout le monde a la même chose. Et donc, c'est pas que, ouh, super pantalon, super pull, j'aimerais bien avoir ce pull, je sais pas. Tout le monde est habillé de la même façon. Ça, c'était une libération pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont les robes en soie. Il y en a qui ont le sous-robe bleu ciel plutôt que blanc. Il y en a qui s'est fait sur mesure, il y en a d'autres qui est acheté dans une boutique. Donc,
en fait, pour moi, ça fait partie de la pratique tout ça. C'est-à-dire qu'on mette des formes ou qu'on ne mette pas des formes. De toute façon, on est à chaque fois là où on en est, on est confronté à nos conditions.
Exactement.
Donc,
qui en met en robe ou non.
Par exemple, moi, au départ, quand j'ai commencé à pratiquer, je suis arrivée dans une sangha où il y avait des formes qui ne sont pas la même, pas forcément les mêmes formes que là, mais qui ne sont pas non plus les mêmes formes que, par exemple, avec des chimarous. Hein, c'était voilà. Beaucoup plus... On ne mangeait pas du tout un orioki parce que mon maître Jacques Brosse, à l'époque, alors lui, je crois que ça l'insupportait, les orioki. Donc, on mangeait à table, normalement, quoi. Mais il y avait d'autres formes dans le dojo. Mais c'était des formes qui, pour moi, étaient déjà très... Ce que tu dis... C'est-à-dire, j'avais l'impression de me soumettre à quelque chose dont je ne comprenais pas le sens au départ. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai l'impression, après, je me suis rendu compte qu'il, moi, était tellement bordélique dans ma vie que finalement, ces formes-là m'ont appris quelque chose de mon conditionnement, de mon bordel, quoi. Que j'ai appris comment accepter quelque chose qui, pour moi, était soi-disant un manque de liberté. Alors mm-hmm. qu'en fait, non, ces formes, elles me donnaient une autre forme de liberté. Était justement, on était tous habillés pareil, et donc j'étais pas en train de me dire mince, ben moi, mince, j'ai oublié de prendre 3 pulls pour venir à la Séchine parce que s'il va falloir que je me change tous les jours, sinon on va, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, c'est ce que je sens de cette pratique. Par exemple, ici, j'arrive, et ben je réapprends à me déconditionner des formes parce qu'on peut aussi s'attacher aux formes.
Exactement.
Et quand on s'attache aux formes, et ben on en revient à la même chose. Donc, je trouve que c'est vraiment important de naviguer à travers ça, de manière à chaque fois se remettre en question. Parce qu'il y a des gens dans le zen, et ben ils sont tellement attachés aux formes, qu'ils sont tellement rigides, ben ça ne donne pas envie aussi. Hein. Donc, il y a vraiment un juste milieu. Enfin, c'est ce que je pourrais dire.
Absolument, oui, ouais. C'est vrai. Et toi qui as pratiqué donc avec Jacques Brosse, et puis maintenant avec un autre qui a d'autres rituels, qui
exactement.
A d'autres façons
d'autres
de faire,
façons de faire. C'est et d'autres ça. Façons de taper le bois et d'autres c'est façons.
Ouais. Ok. Bon, ça a enchaîné une bonne discussion. Hein. Merci.
Merci. Merci.